il est?
Je suis le docteur House, le médecin de votre fils.
Oh, celui que nous ne connaissons pas encore.
Celui qu'il ne connaît pas. Mais comment faites-vous pour le soigner sans le voir?
C'est facile, j'en ai rien à foutre de lui.
Libre Radio, la radio qui n'en a jamais cure. www.libradio.org.
Fréquence Banane et libradio.org. Nous sommes donc en... non plus en direct maintenant, mais dans la continuité de l'événement que nous avons couvert tout ce week-end, qui est donc La Rue est à vous, ici dans le quartier des Grottes. Et nous recevons maintenant par téléphone Grégory Reich, qui est responsable de secteur de recherche à l'UNIL, donc à Lausanne, à la faculté de biologie et de médecine, au département de microbiologie fondamentale. Est-ce que je me trompe?
Non, c'est ça.
C'est bien sage. Très bien.
Bonjour.
Bonjour à vous, bienvenue. Et merci de nous répondre à nos questions, parce que j'imagine que vous avez un programme chargé, puisque nous sommes à l'aune de ces journées de la microbiologie qui se tiendront le 13 et 14 septembre prochain, alors du coup ici à Genève, et dont le titre est « Virus et bactéries, le cocktail santé », et qui donc dans lesquels qui contiendront deux conférences grand public, les mercredis 13 et jeudi 14 septembre. Cela, ça sera au CMU. Le CMU se situe rue Michel Servet 1. Et notamment, c'est le bus 1 hein, depuis la gare Cornavin à Genève, et c'est à l'auditoire 250 à 18h30. Mais avant cela, dès 17h30, une exposition et rencontre autour de la phagothérapie aura lieu devant l'auditoire. Est-ce que je me trompe là ou pas?
Non, c'est ça, exactement. Très bien. Vous avez tout à fait raison.
Bon, ben, c'est super. Alors voilà.
C'est les mêmes informations que j'ai reçues. Oui.
Ah, ben c'est génial, ça tombe bien. Ouais. Alors voilà, les premières questions que nous voulions vous poser, c'était effectivement des questions un petit peu comme ça, triviales, mais évidemment qui certainement nous éclaireront aussi. Alors voilà, virus et bactéries, quelle est la différence, quelles sont les différences entre un virus et une bactérie?
Alors je dirais ben, la différence majeure, c'est qu'on considère toujours que le virus n'est pas vraiment un organisme vivant. Hein, dans le sens où il a besoin d'un hôte pour se reproduire. Donc le virus, c'est un parasite, si on préfère. Hein, il a besoin d'une cellule humaine, dans le cas du virus de la grippe, par exemple, pour se reproduire. Et puis, on parlera des bactériophages tout à l'heure. Donc les bactériophages sont des virus également, mais qui, eux, contrairement au virus de la grippe, ont besoin d'une bactérie pour se reproduire. Donc ils vont se reproduire aux dépens de la bactérie, et ce qui est intéressant pour la phagothérapie, ben, c'est qu'ils vont tuer la bactérie pendant leur cycle de reproduction.
Voilà.
La bactérie, elle se reproduit de façon autonome, en fait, elle n'a pas besoin d'un organisme vivant pour se reproduire.
Oui,
voilà.
D'accord. C'est-à-dire que le virus, en théorie, a besoin quand même d'un corps, alors, sain d'une certaine manière, enfin en tout cas, qui vivant.
Alors en fait, oui, bon, d'un corps, d'une entité vivante, oui. Donc, ouais. Comme dit, le virus, il a besoin d'une cellule humaine ou d'une cellule animale pour se reproduire. Le bactériophage a besoin d'une bactérie. Ouais.
D'accord. Tout cela fait partie de la famille des micro-organismes. Cette famille contient-elle d'autres membres ou est-ce là l'ensemble de la famille, les virus et les bactéries?
Non, alors il y a d'autres membres, hein, comme les champignons, par exemple. Hein.
Mm-hmm.
Ce sont aussi des micro-organismes.
Ouais.
Voilà, qui sont un petit peu plus évolués que les bactéries.
D'accord.
Voilà. Donc, il y a d'autres membres encore. Oui.
Ok, d'accord. Donc en fait, c'est plutôt quand même une grande famille.
Voilà.
Dites-moi, alors, quels sont là-dedans, alors évidemment, tout le monde a entendu parler des antibiotiques, bien entendu. Alors, quelle est la fonction d'un antibiotique et les limites des antibiotiques? Comment est-ce que cela fonctionne-t-il?
Ouais. Alors, l'antibiotique, en fait, c'est une famille de molécules anti-infectieuses qui vont fonctionner sur les bactéries. Hein. Donc, ça va tuer les bactéries. Alors, il y a plusieurs mécanismes. Le mécanisme principal, c'est d'inhiber, par exemple, donc de bloquer, en fait, une fonction vitale pour la bactérie, ce qui fait qu'elle va, bah, comme cette fonction ne fonctionne plus, la bactérie va à terme mourir. Donc, les antibiotiques, ce qui est important de retenir, ce sont des molécules antibactériennes.
Hein. Mmh. Donc, voilà. Inopérantes sur les virus.
Oui, inopérantes sur les virus, en l'occurrence, voilà, oui. Ça, c'est très important. Et puis, ben, la limitation d'utilisation des antibiotiques, ben, c'est ce dont on entend de plus en plus parler, c'est les problèmes de résistance, hein, parce que les bactéries sont capables de résister aux antibiotiques et on a de plus en plus de problèmes de résistance et avec tous les problèmes de santé publique que ça,
oui.
Ça cause. Hein.
On a également, alors je ne sais pas si ça fait partie également de votre domaine, mais entendu parler d'antibiotiques qui seraient administrés notamment à des animaux pour des effets secondaires, qui en fait seraient des effets secondaires en termes sanitaires, mais qui, voilà, pour l'agro-industrie, ouais. Par exemple, permettraient, par exemple, d'assimiler plus d'eau.
Oui, alors effectivement, il y a eu pendant une période, mais ça, c'est interdit maintenant dans l'Union européenne, des utilisations d'antibiotiques comme facteur de croissance, notamment chez les poulets, etc., pour augmenter en fait sans doute le poids des animaux, vous voyez, en utilisant des
Oui.
antibiotiques.
Mais
Et ça, malheureusement, c'est une utilisation inappropriée dans le sens où on va confronter des bactéries, même dans l'environnement, à des quantités d'antibiotiques plus ou moins importantes, et on va donc sélectionner des bactéries résistantes, avec tous les problèmes que ça peut procurer par la suite quand ça revient chez l'homme, par exemple.
Oui, ça c'est un sujet de microbiologie, le fait de se dire attention, les antibiotiques peuvent souiller des eaux par la suite et se retrouver dans les nappes phréatiques et par le circuit alimentaire, se retrouver également ensuite dans le corps humain.
Oui, exactement. Donc ça, c'est tout un sujet de recherche. Il y a beaucoup de gens qui travaillent là-dessus. Hein, et ce sont des problèmes connus. C'est pour ça que les antibiotiques comme facteur de croissance ont été interdits dans l'Union européenne. Voilà, donc c'était des problèmes de contamination environnementale également. Hein.
D'accord. J'ai encore une question, disons, comment dire, qui vient d'une sorte d'adage populaire. Souvent, on dit,
Oui.
voilà, le virus rend malade, on est donc immunodéprimé par la suite. Alors, du coup, on prend des antibiotiques pour se protéger, presque en termes de prophylaxie, parce qu'on sait qu'on est immunodéprimé à ce moment-là quand on est malade. Est-ce exact ou est-ce que c'est vraiment de l'ordre du mythe?
Alors en fait, à ma connaissance, il y a des modalités où on prend des antibiotiques en prophylaxie, hein, notamment chez des patients par exemple qui ont comment dire, une prothèse cardiaque, par exemple, des gens âgés qui sont à risque de développer une infection du cœur qu'on appelle l'endocardite, par exemple. On va leur prescrire des antibiotiques s'ils vont chez le dentiste, par exemple, hein, parce qu'on va triturer la gencive, on va faire passer des bactéries de la bouche dans le sang et on risque éventuellement de créer une infection chez ces personnes immunodéprimées et chez ces personnes âgées. Donc par prophylaxie, on donne des antibiotiques. Il y a comme ça des applications et dans lesquelles on donne des antibiotiques en prophylaxie hein, pour prévenir.
D'accord.
Voilà. Mais après, je ne suis pas un spécialiste
D'accord.
du tout de ce domaine-là, mais
Ok. Mais disons que la prophylaxie est quand même le cas rare, c'est ça? Le cas
voilà,
exceptionnel,
exactement.
disons.
C'est vraiment pas, non, on donne pas. Je dirais, on donne plutôt souvent des antibiotiques alors que c'est pas nécessaire. Par exemple, dans les cas d'otite, où on a des otites qui sont dans 70% des cas d'origine virale, on va malheureusement assez systématiquement donner des antibiotiques alors qu'il n'y aurait peut-être pas lieu de le faire. Oui.
D'accord. Dites-moi,
Donc il y
selon...
a
Oui.
encore des cas où on utilise mal les antibiotiques,
Ok.
mais il y a beaucoup d'efforts qui sont faits et qui continuent d'être faits.
Voilà, donc là, c'est ce que j'allais vous demander, c'est qu'on sent que le corps médical fait attention, qu'il y a des progrès qui sont faits, que l'on est de plus en plus
Exactement.
attentif à ce que ça ne soit pas surutilisé.
Ouais, parce que c'est vraiment un problème qui est pris à bras le corps par les autorités. Et puis, ben, lutter contre la résistance, c'est vraiment un des sujets principaux de santé publique. Hein.
Tout à fait. Et alors justement, ça va nous mener à parler des bactériophages, pardon, des bactériophages. Mais j'avais encore une ou deux petites questions concernant les virus et les bactéries. Selon vous, comment est-ce qu'on explique que, a priori, l'image qu'on en a est une image extrêmement négative? Le virus et les bactéries doivent être quasiment automatiquement des choses funestes, alors que, en fait, les bactériophages sont-elles, pourraient-elles en tout cas être profitables?
Ouais. Alors moi, je pense que les mentalités sont quand même en train d'évoluer énormément, et notamment par le biais d'initiatives comme à Genève, là, ces journées d'information du public, etc., d'échanges avec le public. Parce que je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui, notamment, savent qu'il y a beaucoup de bactéries qui sont bonnes pour la santé aussi. Hein. On entend parler du microbiome intestinal de plus en
Oui.
plus. Donc moi, j'ai vraiment l'impression que les gens savent qu'il n'y a pas que des mauvaises bactéries. Les virus également. Hein. Le bactériophage, on a été confronté à ce problème-là pendant des années, dans le sens où on disait que le bactériophage était un virus. Les gens avaient un a priori au départ négatif parce qu'on allait injecter un virus vivant à des êtres humains ou appliquer un virus vivant sur des plaies chez un être humain pour le soigner d'une infection bactérienne, etc. C'était perçu un petit peu négativement il y a de ça, je dirais, une dizaine d'années. Mais maintenant, avec les initiatives qu'on a faites d'échanges avec le public, etc., et qui continuent de se passer, j'ai l'impression que les gens commencent vraiment à faire la distinction. Hein.
D'accord. Donc,
Donc moi, je suis plus optimiste à ce niveau-là.
Génial. Bah, c'est bon signe. Alors,
Oui, très bon
ouais.
signe. Ouais.
Est-ce que ces micro-organismes peuvent-ils influer sur nous? Et si oui, comment et à quel niveau?
Pardon, j'ai pas compris. Les
Je disais,
micro-organismes
oui,
peuvent.
si ces micro-organismes ont leur influence sur nous. D'ailleurs, on le verra, je crois que c'est le sujet de la deuxième conférence, hein. oui. avec la microbiote, le microbiote et le corps. Alors, quelles influences oui. peuvent-ils, ces micro-organismes, avoir sur nous et à quel niveau?
Oui. Alors, bon, moi, je ne suis pas un spécialiste hein, de la flore bactérienne, humaine, etc. Mais ben, bien sûr, quand on ingère, par exemple, pour parler du microbiote intestinal, mm-hmm. quand on ingère des aliments, ben, il va falloir les dégrader pour pouvoir les assimiler. Eh bien, si on n'a pas ces micro-organismes dans l'intestin, ben, on ne peut pas dégrader ces aliments en nutriments pour que l'organisme puisse les assimiler. Donc là, il y a un rôle très important de la flore microbienne intestinale, mmh. ben, tout simplement pour nous permettre de vivre, en fait, hein, et d'utiliser et de prélever l'énergie dans les aliments qu'on ingère.
D'accord. Ça veut voilà. dire que...
Et après, il y a plein d'autres influences des bactéries bonnes pour la santé sur un organisme humain, par exemple.
Voilà, typiquement. Ça veut dire que finalement... ce qui habite, enfin, il y a une proportion de ce qui habite nos assiettes qui constitue oui. notre mental, notre esprit, notre corps finalement, qui influe sur Exactement. L'ensemble de nos fonctions.
Exactement. Et il y a aussi un exemple, hein, par exemple, le Clostridium difficile, hein, vous connaissez sans doute cette infection intestinale. Mm-hmm. Eh bien, on se rend compte que le microbiome intestinal normal, donc les bactéries qu'on a normalement dans l'intestin, protègent de l'invasion par ce Clostridium dans la vie de tous les jours, en fait, dans les cas normaux. Hein. Donc, c'est quand on traite avec des antibiotiques et qu'on élimine cette flore bactérienne normale mmh. qu'on va faire de la place, en fait, souvent pour des pathogènes qui vont s'installer. D'accord. Donc, la flore normale a aussi un rôle de protection.
Ok. Alors, et ces bactériophages, qui sont-ils?
Alors, les bactériophages, comme je l'ai déjà dit un petit peu tout à l'heure, eh bien, ce sont des virus qu'on retrouve dans la nature, vraiment, dans l'environnement, partout où il y a des bactéries. Mmh. On trouve des bactériophages. Alors, c'est l'entité biologique qui est la plus répandue à la surface de la planète. Ça, on ne le sait pas trop. Hein. On a énormément de bactéries sur la planète, mais on a 10 à 100 fois plus de bactériophages, on va dire. Hein. Okay. Pour vous donner un exemple, si vous allez... Je donne toujours cet exemple parce qu'il est assez parlant aussi pour le public. C'est si vous allez au lac Léman hein, et vous buvez la tasse, vous allez absorber 1 million de bactériophages par goutte d'eau du lac Léman.
Oh, par goutte voilà. d'eau.
Par goutte d'eau, voilà.
Okay.
Donc, c'est vraiment très répandu. Et puis, ce sont donc des virus qui vont ne pas pouvoir se reproduire tout seuls dans l'environnement, hein, mais ils vont avoir besoin d'une bactérie. Donc, ils vont se reproduire aux dépens des bactéries. Et ce qui est intéressant quand on a découvert ça dans les années 1915, eh bien, c'est que le bactériophage, il va donc infecter la bactérie. Alors, ça, c'est intéressant. La bactérie infecte, si c'est un pathogène, hein, infecte un être humain. Mmh. alors que le bactériophage va infecter la bactérie et, entre guillemets, rendre malade la bactérie. Parce oui. qu'il va se reproduire à l'intérieur. Et quand il va être mûr et prêt à sortir, eh ben, il va la faire exploser. Donc la bactérie, pendant le cycle de vie du bactériophage, de reproduction, va mourir. Et c'est là où c'est intéressant de voir que ces bactériophages sont en fait des antibiotiques naturels, si et on oui. peut dire. Mm-hmm. Voilà.
Mais alors, effectivement, est-ce qu'on peut imaginer à court, moyen, long terme que l'on oui. Élève, que l'on cultive, je ne sais pas quelle est la meilleure formule, des bactériophages pour s'en servir à dessein, à des moments particuliers et dans des fonctions déterminées?
Exactement, ben, c'est ce qu'on est en train de faire à l'heure actuelle. Hein, au moment où je vous parle, je suis responsable d'un groupe de recherche qui, entre autres, développe une banque de phages, comme on appelle ça, une banque de bactériophages qui sont dirigés contre les pathogènes humains majeurs et à visée thérapeutique. C'est-à-dire que le CHUV et l'UNIL ont lancé officiellement un projet de phagothérapie mmh. qui vise à effectuer un essai clinique chez les patients atteints de mucoviscidose et infectés avec une bactérie qui s'appelle Pseudomonas aeruginosa. Mmh. Et donc, dans ce cadre-là, on isole des bactériophages anti-Pseudomonas et on va les purifier dans les bonnes pratiques de fabrication et les produire donc dans les bonnes pratiques qui sont dictées par SwissMedic, notamment en Suisse. Hein. Mmh. afin de les donner à des êtres humains et de faire un essai clinique pour valider cette phagothérapie et voir un petit peu l'effet thérapeutique. Donc D'accord. c'est utilisé depuis très longtemps dans les pays de l'Est. Ça avait été utilisé chez nous aussi, même en Suisse au CHU. Il y a des patients qui ont été traités dans les années 40-50 par des bactériophages. Donc c'est la phagothérapie. Hein.
Oui.
Et ça a disparu avec l'arrivée des antibiotiques et la démocratisation des antibiotiques, je dirais, dans les années 70. Complètement disparu. Des pharmacies en Suisse et en France aussi, il y en avait. Et maintenant, avec les problèmes de résistance, eh bien, on revient à cette thérapie oubliée. On essaye de la ramener dans nos pays occidentaux.
D'accord.
Mais pour ce faire, il faut faire des essais cliniques avec un traitement standard comme contrôle, hein, vous voyez, pour comparer en fait l'effet. et il faut produire ces bactériophages comme des vrais médicaments, entre guillemets, pour garantir une sécurité maximale aux patients.
Voilà. Alors, c'est ce que j'allais vous demander. La phagothérapie, c'est-à-dire qu'on peut imaginer que ce soit, que l'on soit à l'aune d'une nouvelle pharmacopée, qu'à un moment donné, on remplace carrément l'antibiotique par la phagothérapie.
Alors, en fait, non, on ne va pas remplacer l'antibiotique par la phagothérapie, parce que, fort heureusement, l'antibiotique marche quand même très bien dans la majorité des cas.
D'accord.
Donc, il y a des scénarios un petit peu alarmants quand même, qui disent qu'à l'aube 2050, si on ne trouve pas d'alternative aux antibiotiques, et si on ne fait pas, si on n'utilise pas les antibiotiques encore plus rationnellement pour les économiser leur activité, on aura de l'ordre de 10 millions de morts par an à cause de la résistance aux antibiotiques. Donc, il y a un réel problème, mais par contre, dans la majorité des cas, les antibiotiques fonctionnent très bien. Donc on ne va pas remplacer l'antibiotique par la phagothérapie ou par le bactériophage, mais on va par contre, déjà dans un premier temps, procurer peut-être une solution à un certain nombre de patients qui sont en impasse thérapeutique face à la résistance aux antibiotiques.
Mmh.
Ça, c'est une chose, c'est la première, comment dire, le premier souhait que l'on ait en développant la phagothérapie. Et ensuite, on a aussi des évidences expérimentales au niveau du laboratoire qui montrent que les bactériophages et les antibiotiques fonctionnent très bien ensemble. Hein.
Ah.
Donc, c'est aussi peut-être une voie d'avenir de combiner l'antibiotique et le bactériophage qui sont synergistiques, hein, comme on dit.
D'accord. Mais alors dites-moi, on entend bien les vertus combatives de la phagothérapie et des bactériophages, mais y a-t-il là également des défauts, des problèmes, des effets secondaires, par exemple, qui pourraient surgir ?
Pour les bactériophages,
oui.
Oui. Donc en fait, pour les bactériophages, on connaît aussi la résistance. Hein, donc,
d'accord.
Une bactérie, quand on mélange une bactérie avec un bactériophage dans un tube à essai, bon, il n'y a pas le système immunitaire autour, on n'est pas dans un organisme, etc. On se rend compte que très rapidement, on va sélectionner, en fait, comme les antibiotiques, on va sélectionner une population de bactéries qui est résistante aux bactériophages. Alors, un exemple commun de comment la résistance se fait, eh bien, tout simplement, on a dans la bactérie, par exemple, un gène qui code pour une protéine qui est à la surface de la bactérie et qui est le récepteur du bactériophage. D'accord.
Mmh.
Le bactériophage se fixe dessus et il infecte la bactérie. Si ce récepteur est perdu par la bactérie pour une raison ou une autre, eh bien le récepteur n'est plus là, le bactériophage ne peut plus se fixer, la bactérie est résistante. Eh bien, dans la population bactérienne, on a de temps en temps, à une fréquence très faible, des bactéries qui, comme ça, ont perdu le récepteur du bactériophage et qui vont être sélectionnées si on les met en présence de bactériophage. Parce que la population qui a le récepteur et qui est donc sensible va être tuée par le bactériophage, et la population qui ne l'a pas va être sélectionnée.
D'accord.
Donc ça, la résistance, c'est quelque chose qu'on connaît, qu'on a déjà bien caractérisé dans le laboratoire, et c'est un phénomène sur lequel on travaille énormément.
Ouais.
Et ensuite, par contre, on a certains avantages aussi, comme par exemple, les bactériophages sont très spécifiques de l'espèce bactérienne. Donc un bactériophage qui va tuer le Pseudomonas aeruginosa, dont on parlait tout à l'heure, pour les patients qui ont la mucoviscidose, ne va pas tuer une Escherichia coli qui est en fait un des membres les plus répandus dans notre flore intestinale. Donc on a une spécificité quand même qui est, je dirais, plus forte par les phages que les antibiotiques qui rasent un petit peu tout, malheureusement. Ça, c'est un des effets négatifs des antibiotiques. Quoi.
Absolument. Et puis, dites-moi, en termes de deux petites questions, puis ensuite on en vient au programme et on vous laissera ensuite continuer votre journée. On ne veut pas non plus vous prendre de votre temps. La production est-elle peut-être également plus aisée que des médicaments habituels, usuels en bactériophage? Est-ce qu'on peut imaginer que justement l'industrie pharmaceutique, toutes ces choses-là, seraient de ce point de vue-là plutôt favorables?
Oui, alors on a, comment dire, plus aisé, je ne sais pas si c'est plus aisé, parce qu'on on a déjà à mettre au point les techniques de purification, etc., et à transférer ça à un laboratoire qui puisse produire ces bactériophages dans des conditions, comment dire, de salle blanche, etc., de bonne pratique. Hein. Donc il y a quand même une mise au point au départ assez importante des techniques de purification. Hein.
Okay.
Parce qu'il faut savoir que la production en bonne pratique de fabrication des phages, ça va être quasiment une première mondiale, parce que ça a été fait une fois en France pour l'essai clinique sur les grands brûlés qui s'est terminé cette année et pour lequel on est en train d'analyser les résultats. On devrait publier à la fin de l'année les résultats de cette étude.
Mm-hmm.
Donc ça avait été effectué une seule fois pour un type de bactériophage bien précis. Donc ça, c'est quelque chose qui reste à créer. Tout ça, ça reste à créer. Ensuite, Swissmedic a donc déjà un recul sur la phagothérapie avec cette étude qui s'appelait Phagoburn à l'époque sur les grands mollets. Oui. Mais c'est quand même un sujet qui est très nouveau. Donc on a vraiment aussi la législation à consulter, à adapter, etc. pour faire rentrer les bactériophages dans la classe des médicaments, on va dire.
D'accord.
Voilà, donc ça c'est le premier challenge, je dirais, pour arriver à produire ces phages. Et après, c'est vrai qu'il faut quand même produire, pour chaque espèce bactérienne, il va falloir produire des bactériophages différents. Donc ça, ça rajoute un petit peu à la complexité par rapport à l'antibiotique, où effectivement on a une molécule qui va cibler plusieurs espèces bactériennes.
Voilà ce qu'on appelle à large spectre. Donc,
voilà, exactement. Ouais. Donc c'est simple et c'est pas simple, on va dire.
Ouais,
c'est un petit peu un mélange des deux, mais voilà.
Dites-moi, alors juste les champs d'application et les délais impartis. Alors les champs d'application, ça peut être vraiment tout au bout du compte?
Alors, sauf, bon, ça peut être tout. Non, ça ne peut pas être tout. Déjà, ça se limite à l'infection bactérienne.
Oui.
Et ensuite, on a certaines infections bactériennes, certaines bactéries qui, comment dire, soit vont être difficilement accessibles parce qu'elles sont intracellulaires.
Ah,
alors, c'est le cas, par exemple, de la tuberculose, où on a quand même un phénomène où la bactérie rentre dans les cellules eucaryotes humaines. Donc, elle se cache, en fait, du bactériophage. Et puis ensuite, on a aussi des pathogènes pour lesquels je pense à Borrelia burgdorferi, par exemple, qui est l'agent de la maladie de Lyme, hein, donc
oui.
La maladie du tique en français. Hein.
Oui.
Là, on a beaucoup de mal à faire pousser déjà cette bactérie en laboratoire, et puis on n'a pas encore à l'heure actuelle de bactériophages disponibles, parce qu'ils sont très compliqués à trouver. Voilà.
Okay.
Donc il y a des limitations comme ça. Voilà.
Mais dont on pourrait dire que dans un délai plus long, elle pourrait être encore réduite. Enfin, c'est, le champ d'application pourrait être encore étendu. Typiquement, pour la maladie de Lyme, on peut imaginer que...
Oui,
voilà. Et alors, justement, pour en terminer pour cette partie, et on vous remercie encore, où en est-on justement en termes de délai d'application? Voilà, où est-ce qu'on en est actuellement à l'heure où on se parle concernant la recherche de la phagothérapie?
Alors, comme dit, à l'heure où on se parle, on a vraiment démarré début septembre, je dirais, c'est le lancement officiel d'un projet de phagothérapie au CHUV et à l'UNIL, donc.
Mm-hmm.
Et puis là, le délai, c'est un délai à 5 ans pour arriver à avoir des résultats pour un essai clinique de patients qui en ont mucoviscidose.
OK.
Voilà, donc on est sur une échelle de temps de 5 ans, je dirais.
D'accord, donc finalement, une échelle de temps très réduite. 5 ans,
très
c'est
réduite,
court.
Oui, ouais. Effectivement.
Absolument. Voilà. Très bien. Eh bien, je vous remercie. Je vous remercie énormément pour toutes ces explications. Super. Et en tout cas, je vous remercie énormément. C'était extrêmement intéressant, surtout pour nous qui sommes des profanes. Vous voyez, médecine, voilà. On vient de trucs un peu plus littéraires comme ça. Mais... Donc, c'était très intéressant et très compréhensible. Donc, je vous remercie beaucoup.
Très bien. Merci beaucoup.
Bonne
journée. Au revoir.
Au revoir. Nous recevions Grégory Reich, responsable de secteur de recherche à l'UNIL, donc à l'Université de Lausanne, à la Faculté de biologie et de médecine, au département de microbiologie fondamentale. Et maintenant, voici le programme de ces festivités. Donc, il s'agit des journées de la microbiologie du 13 et 14 septembre prochain, virus et bactéries, le cocktail santé. Ce sont des conférences grand public. À partir de 18h30 au CMU, le CMU se situe rue Michel Servet 1, l'entrée est libre. Le bus numéro 1 depuis la gare Cornavin, par exemple, vous y mène et c'est à l'auditoire, précisément à l'auditoire A250. À partir de 17h30, donc avant, une heure avant là, les conférences, l'exposition et rencontre la phagothérapie aura cours devant, juste devant l'auditoire. La première de ces conférences, donc le mercredi 13 septembre, elle sera... Voici, donc elle sera l'œuvre du professeur Jacques Schrenzel de la faculté de médecine de l'UNIGE et responsable du laboratoire de bactériologie au HUG, donc aux hôpitaux universitaires de Genève. Les récents progrès du séquençage de l'ADN permettent de déchiffrer les relations entre le cerveau et le microbiote intestinal, donc l'ensemble des habitants de nos intestins. Caractérisée par sa diversité et sa richesse bactérienne. Aussi étonnante que complexe, elles peuvent moduler la faim et la satiété, le choix de consommer certains aliments et même certaines émotions comme la peur ou des facettes de notre humeur comme la dépression. Les effets associés au microbiote intestinal peuvent provenir de mécanismes très différents et expliquer ainsi une variété de symptômes ou de maladies s'étendant bien au-delà du système digestif. Entre effets de mode et réalité, l'occasion d'y voir plus clair. La deuxième conférence, ce sera donc le jeudi 14, toujours à 18h30, toujours au CMU, à l'auditoire A250, Phagothérapie, le retour des virus guérisseurs, avec le professeur, avec le docteur Yok Ai Kwe de l'Inselspital à Berne, ainsi que le docteur Grégory Resch, que l'on vient de recevoir, de la faculté de biologie et de médecine de l'UNIL à Lausanne, dans un monde où les bactéries sont de plus en plus résistantes aux antibiotiques. Lutter contre les infections est devenu un enjeu de santé publique majeur. En Suisse comme en Europe, des chercheurs et des médecins se sont lancés un défi, utiliser contre ces bactéries leurs prédateurs naturels, les virus bactériophages. Découvrez au cours de cette présentation l'histoire déjà longue et les avancées de pointe de la phagothérapie, une alternative aux antibiotiques disponible depuis près d'un siècle en Europe de l'Est et très sérieusement reconsidérée aujourd'hui en Occident. Voilà pour les deux conférences et à chaque fois avant les conférences, la phagothérapie rencontre et exposition dès 17h30 et également après les conférences. Dernier petit mot, le premier essai clinique portant sur la phagothérapie a débuté en 2013. L'éprouvette, laboratoire public de l'UNIL, tiendra un stand dédié aux phages et leur potentiel thérapeutique. Par intérêt ou simple curiosité, venez discuter avec des spécialistes pour en apprendre plus sur cette médecine de demain. Voilà pour ce programme. Et puis nous conclurons avec un petit peu d'humour et en rappelant une ancienne rubrique qui avait cours à Libre Radio et à Fréquence Banane. Le CMU donc se situe 1 rue Michel Servet, dont on rappelle qu'il fut un savant du milieu des années 1500, qu'il découvrit la circulation pulmonaire, ce qui n'est pas rien, qu'il émit une théologie radicale refusant la Trinité et remettant en cause la nature divine du Christ, ce qui lui valut une double condamnation à mort par les catholiques et les protestants. Il a fait l'unanimité pour le coup. Qu'après une arrestation, une évasion et son retour à Genève, arrêté sur ordre de Jean Calvin, il fut brûlé vif à l'emplacement même du CMU, enfin juste à côté, à l'emplacement de la colline, le 27 octobre 1553, qui fut une journée d'automne pluvieuse. Et donc le bûcher, dressé depuis le matin, ne se consuma que très lentement, infligeant d'atroces souffrances et une agonie de presque 3/4 d'heure aux condamnés. Il est heureux que par une sorte de postérité, l'on cherche désormais à y réduire les maladies plutôt que les corps et les esprits.